Depuis quelques jours, à Guelph se tient la première édition du festival Shakespeare Made in Canada. Et pour nous parler de l'événement, on accueille Diane Nalini de Kerckhove. Bonjour Diane.
Bonjour.
Pourquoi
bonjour,
on a voulu...
allez-vous?
Ça va bien vous aussi?
Ça va, merci.
Pourquoi on a voulu consacrer un festival à Shakespeare qui est déjà célébré ailleurs dans la province?
Oui, effectivement. Tout tourne autour d'un tableau de Shakespeare qui a été peint, on croit, en 1603
oui.
par le peintre John Sanders.
Oui, le tableau qu'on connaît sous le nom de The Sanders Portrait.
Oui, exactement. Et puis, nous avons l'honneur ici d'accueillir le tableau au musée, à la galerie MacDonald Stewart. Et c'est Lloyd Sullivan qui est propriétaire du tableau d'origine d'Ottawa qui a prêté le tableau au musée. Et puis, c'est un des seuls tableaux qu'on croit a été peint en son vivant, dans la vie de Shakespeare, quand il avait 39 ans. Alors, c'est un tableau très précieux et très unique au monde, parce qu'on y voit un Shakespeare très jeune, avec des cheveux roux et beaucoup de cheveux d'ailleurs, parce que les tableaux de Shakespeare dans sa vieillesse ont tendance à montrer quelqu'un de très un peu plus opulent, il est chauve. Et puis alors c'est vraiment une autre représentation de Shakespeare, et c'est un tableau très charmant. Et donc pour célébrer l'obtention du tableau pour le musée, ils ont monté toute une exposition ayant trait aux adaptations de Shakespeare, aux adaptations théâtrales. Et puis, il y a même une exposition particulière sur les adaptations francophones de Shakespeare. Et ça, c'est en collaboration avec le Théâtre du Nouveau Monde à Montréal. Il y a des costumes à essayer. Les jeunes peuvent venir et en apprendre plus sur les adaptations théâtrales, les adaptations de ballet de Shakespeare, la musique de Shakespeare. Et aussi, une exposition à laquelle j'ai participé pour le montage examine aussi les démarches scientifiques qui ont été suivies pour analyser le portrait, pour la spectroscopie du portrait, pour analyser la provenance de la pigmentation qui a été utilisée pour peindre le tableau.
Oui. Donc, bon, j'aimerais que vous nous donniez des précisions, justement, parce que ce portrait de Shakespeare a soulevé beaucoup, beaucoup de questions, et c'est par l'approche scientifique qu'on a tenté de trouver des réponses. Vous êtes une scientifique vous-même, sans aller dans des détails qui seraient difficiles à comprendre pour moi. Qu'est-ce qui a été fait et comment on a réussi à obtenir la véracité de l'histoire de cette œuvre-là?
Oui, donc il y a plusieurs méthodes d'analyse ont été utilisées, mais pour moi la plus importante c'est la datation par le carbone 14, parce que ça prouve que le tableau a été peint aux alentours des années 1600. Donc si la datation avait prouvé une date plus jeune pour le tableau, tout aurait été remis en question. Mais la date qu'on a estimée pour la provenance du tableau tourne autour de 1600, et ça c'est en parfaite harmonie avec la date qu'on retrouve à l'endos du tableau, parce que le portrait est signé John Sanders en 1603. Donc ça, c'est l'analyse la plus importante, de prouver que le tableau est aussi vieux qu'on réclame.
Ouais. Et ce qui rend plausible aussi le fait que Shakespeare soit représenté à l'âge de 39 ans.
Oui, exactement. Donc ça, c'est l'analyse la plus importante d'après moi. Il y a d'autres analyses qui ont été faites. Par exemple, on peut savoir si le tableau a été retouché après, si on a rajouté des couches de peinture par-dessus la finition, le vernis. Et on a examiné le tableau avec la lumière ultraviolette, et on a trouvé qu'il n'y a pas eu de retouche au tableau. Donc là encore, ça prouve que le tableau est plus ou moins intact et qu'il est assez vieux, qu'il a environ 400 ans.
Oui. Et l'histoire de ce tableau-là est assez inhabituelle aussi. Il a même été rangé sous le lit de la grand-mère de la famille qu'il possédait. Il n'a pas toujours eu son heure de gloire.
Non, pas du tout. En fait, je crois que d'après les histoires de la famille Sullivan, je crois que le tableau a toujours été gardé dans la famille. Et la grand-mère de Lloyd Sullivan, effectivement, lorsqu'elle est en vieillissant, elle voulait voulait avoir le portrait près d'elle. Donc, c'est pour ça qu'elle le mettait sous son lit pour le garder proche de son cœur.
C'est intéressant.
Oui.
Vous êtes une scientifique, mais vous êtes aussi une artiste. Qu'est-ce que l'artiste pense de tous ces tests qui démystifient en quelque sorte le travail de l'artiste?
Oui, moi je peins, je fais des aquarelles, je suis chanteuse et compositeur aussi, mais je suis d'accord que les tests sont importants pour vérifier l'authenticité, mais parfois lorsqu'on fait plusieurs tests pour découvrir les couches sous la peinture, les esquisses de l'artiste, je me sens toujours un peu triste pour l'artiste parce qu'on est en train de dévoiler des secrets que l'artiste a voulu bien cacher de son public. Mais je comprends parfaitement les démarches suivies, parce que c'est très important de savoir si ce tableau est authentique ou non. Mais pour moi, le tableau a tout un charme particulier et je l'aime beaucoup. Et même si à un moment donné, on découvrait que ce n'était pas Shakespeare, je serais quand même charmée par ce tableau. Mais tout semble pointer dans la direction de l'authenticité dans ce cas-ci.
Mais pas au point que vous vouliez le cacher en dessous de votre lit quand même.
Ah non, pas du tout. Il mérite plus que ça, beaucoup plus que ça.
Ce tableau-là, donc, est visible au cours des prochaines semaines.
Oui.
Beaucoup d'activités qui sont organisées et vous participerez à quelques-unes d'entre elles, à une exposition avec vos aquarelles chinoises, mais aussi
ça,
à un spectacle parce que vous avez mis en musique des sonnets et des chansons de Shakespeare. Vous êtes une vraie passionnée, vous.
Ah oui, absolument. Moi, mes deux premiers albums de jazz étaient surtout des standards du American Songbook, la chanson française, la bossa nova. Mais pour ce projet-ci, mon troisième album qui s'intitule Songs of Sweet Fire, c'est entièrement dédié aux œuvres de Shakespeare que j'ai mises sur musique parce que je trouve que les mots de Shakespeare sont universels. Et d'ailleurs, j'ai essayé de choisir des textes dont le langage était très moderne. Donc, ce sont des textes qui sont chantés dans les pièces de Shakespeare, mais qu'on peut enlever de leur contexte théâtral et qui tiennent quand même debout et qui ont un charme à eux tout seuls. Et j'ai choisi des chansons, j'espère les avoir bien choisies, dans le sens que souvent les gens viennent me voir après le spectacle et me disent « Mais est-ce que ce sont vraiment des paroles de Shakespeare ?» Parce que le message est tellement contemporain, les paroles semblent tellement modernes. Alors, pour moi, ça montre l'universalité de Shakespeare et son grand génie, parce que toutes les analyses de philosophie ou les chansons d'amour montrent une compréhension très profonde de la situation humaine, du cœur humain.
Ouais.
Et c'est pour ça que j'aime chanter ces chansons et je pense que les œuvres de Shakespeare seront toujours jouées dans 1000 ans, dans 2000 ans, parce que ce sont des thèmes universels.
Et intemporels.
Oui, exactement.
Et vous leur avez donné une allure très moderne à ces textes-là par votre musique.
Merci.
Est-ce qu'ils étaient déjà porteurs de leur propre musicalité?
D'après moi, oui, parce que Shakespeare comprenait très bien ce qu'une bonne chanson nécessite.
Ouais, donc, il avait l'oreille musicale.
L'oreille musicale, le concept de répétition, d'avoir un maître facile et naturel. Pour moi, ça a été très facile de mettre ces paroles sur musique parce que, surtout les chansons que j'ai choisies, m'ont presque présenté la musique par elle-même. Moi, je lisais les mots, par exemple, de Daisy's Blues, la chanson chantée par Desdemona dans la pièce Othello. C'est une chanson qu'elle chante juste avant de mourir, parce que Othello va la tuer. Et pour moi, c'était une lamentation qui était transparente, qu'il fallait à tout prix que ce soit un blues.
Ça appelait le blues.
Oui, ça appelait absolument le blues. Mais je sais que c'est mon style d'écrire. Je suis certainement pas la première à mettre sur musique les œuvres de Shakespeare. Ce sont des pièces qui ont été mises sur musique au cours des siècles. Alors moi, je ne suis qu'une personne à mettre mon empreinte sur les œuvres de Shakespeare, mais c'est mon bébé, l'album, et j'en suis très fière et j'en suis très reconnaissante à Monsieur Shakespeare pour avoir inspiré cette musique.
On va les entendre, ces chansons-là, le 1er mars, puisque vous présenterez un spectacle dans le cadre de ce festival Shakespeare Made in Canada. Mais on va en entendre une tout de suite de Cuckoo Song. Je vais vous demander de nous la présenter, s'il vous plaît.
Ah oui, certainement. Le Cuckoo Song, c'est une chanson qui est chantée à la fin de la pièce Love's Labour's Lost. Et pour moi, c'est une chanson qui parle du printemps, mais aussi des dangers de l'amour jeune, puisque la chanson du coucou rappelle, dans un certain sens, le danger de l'infidélité dans le mariage. Donc, il y a un aspect très jeune et très joyeux dans cette chanson, mais il y a aussi l'aspect de le risque de l'amour. Alors j'aime beaucoup cet équilibre entre la naïveté d'un côté et puis la sagesse ou peut-être le cynisme aussi.
Je sens que vous allez avoir beaucoup de plaisir au cours des prochains mois à Guelph, Diane Nalini de Kharkov. Merci beaucoup de nous avoir parlé de ce festival et on vous écoute dans cette pièce qui est tirée de votre disque Songs of Sweet Fire.
Merci. Yellow hue to paint the meadows with delight. The cuckoo then on every tree mocks married men, for thus sings he, cuckoo, cuckoo, cuckoo. A word of fear, unpleasing to a married ear. Shepherds pipe on oaten straws, and merry larks are plowmen's claws. When turtles tread and rooks and doves, and maidens bleach their summer smocks. The cuckoo then on every tree mocks married men, for thus sings
Diane Nalini, c'est extrait de son disque Songs of Sweet Fire. Elle s'appelle Diane Nalini pour faire la promotion de... Quand elle est chanteuse, hein, parce qu'elle dit, ça m'a assez amusée, je ne veux pas que je sois identifiée comme la chanteuse avec un nom imprononçable. C'est drôle, moi j'adore son nom, Diane Nalini de Kharkov. Hein? C'est un joli nom, je l'aurais gardé de façon intacte. D'autant plus que moi j'ai plus de difficultés avec le Nalini que le Kharkov. J'ai tendance à dire Nalini au lieu de... Ben, c'est ça aussi, Nalini. J'ai tendance à dire Nanili. Qu'est-ce que j'ai tendance à dire? Nalini. Il n'y a pas que Shakespeare qui a vu ses textes mis en musique et repris et encore repris. Serge Gainsbourg aussi, on parle d'autre chose complètement, mais lui aussi est un des auteurs qui a vu ses textes...